Philippe de Cholet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Matignon Finance. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Comment vous abordez cet automne boursier? C'est ma question du moment.
Écoutez, je pense que je l'aborde de façon plus sereine sans doute que je ne l'ai fait en début d'année. Un certain nombre d'éléments quand même m'incitent à être un peu plus optimiste. Le fait notamment que la croissance aux États-Unis se stabilise à un haut niveau, le fait qu'en Chine, malgré tout, les autorités semblent contrôler ce repositionnement du modèle économique, même si des zones d'ombre persistent. Et en Europe, panorama assez contrasté, il est vrai, mais avec quand même une croissance qui redémarre lentement mais sûrement, mais avec un panorama, il est vrai, contrasté. L'objectif quand même, c'est de ne jamais perdre de vue que les banques centrales font tout ce qu'il faut pour essayer d'accompagner cette reprise de l'investissement auquel elles aspirent.
Alors pour l'instant, effectivement, en tout cas dans les résultats de leur politique monétaire, on voit que la croissance économique reste faible, c'est-à-dire après ces années de quantitative easing, finalement l'effet sur l'économie mondiale, il est en question.
C'est vrai, mais alors il est difficile d'en tirer non plus des généralités, parce que les raisons qui amènent à une croissance faible peuvent beaucoup varier d'un pays à l'autre. En l'occurrence, pour ce qui est de la France, par exemple, je pense qu'il y a quand même au départ un problème de confiance, notamment de la part des chefs d'entreprise, qui hésitent encore à réinvestir de façon significative. Donc il faudra lever un certain nombre d'interrogations, que peut-être d'ailleurs les prochaines élections politiques lèveront, pour créer un climat favorable à la reprise de l'investissement. Néanmoins, on le voit bien quand même, les taux très faibles auxquels on assiste aujourd'hui participent à l'envolée des crédits immobiliers dans les grandes banques, à la bonne tenue quand même de la consommation. Donc le problème vient plutôt de la part de l'investissement des entreprises que de la consommation des particuliers.
Quand on regarde l'investisseur, on se place du côté de l'investisseur aujourd'hui, finalement, il a vu ses taux d'intérêt baisser, voire être négatif sur pas mal sur des trillions de dollars, pour simplifier. Il voit les actions, mais il n'a pas forcément envie de prendre ce risque action.
Oui, c'est bien toute la difficulté auquel nous autres gestionnaires de portefeuille sommes confrontés, c'est comment arriver à recréer de la confiance auprès des particuliers face à un placement qui est par définition un placement à risque. Donc je pense que là, il faut être, j'allais dire revenir à l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et privilégier encore les dernières poches de rendement qui restent, j'allais dire, élevé, surtout si on se réfère au rendement du contrat en euros qui, lui, ne cesse de baisser depuis plusieurs années. Je pense en particulier, bien sûr, aux SCPI, qui ont suscité un engouement important depuis plusieurs années et qui rapportent encore du 4,5-5%. Même si ce rendement n'est pas garanti et qui, lui aussi, baissera sans doute dans les années à venir avec une éventuelle hausse des taux, il reste, somme toute, beaucoup plus élevé que ce que les rendements des contrats en euros peuvent rapporter. Ne pas non plus se détourner complètement des actions, privilégier les actions, les valeurs de rendement. Aujourd'hui, on trouve de très belles valeurs qui rapportent du 6, 7, 8%. Donc, je pense qu'il y a aussi quand même un volet sécurité sur ce type d'action. Parce que même, à la limite, si le rendement devait baisser, l'épargnant, à ce moment-là, gagnerait sur la hausse du titre. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement aussi conseiller aux particuliers d'arbitrer une part, en tout cas, de son contrat en euros ou de ses SICAV monétaires au profit d'une approche multithématique en unité de compte, si on se place dans le cadre de l'assurance vie, pour faire en sorte qu'au global, le risque soit maîtrisé.
Oui, c'est l'enjeu avec une visibilité qui reste réduite quand on voit effectivement en général même des publications, on voit des chefs d'entreprise dire bon, prudence pour les prochains mois, on n'a pas trop de visibilité. Même un chef d'entreprise qui va peut-être publier un chiffre d'affaires en croissance.
Oui, c'est vrai. Mais ça, je pense que les errements des politiques gouvernementales en France, en particulier, expliquent une bonne part de cette frilosité des chefs d'entreprise. Mais on arrive sans doute quand même, je pense, un peu au bout du cycle. Si l'investissement ne repart pas, les entreprises vont quand même décrocher. Elles vont devoir d'une manière ou d'une autre quand même réinvestir. C'est vrai que les taux d'intérêt bas les y aident, mais il faudra sans doute un choc de confiance plus fort. Et je pense, je vous le disais tout à l'heure, que le résultat des prochaines élections peut être à cet égard déterminant.
Oui, c'est pas le moindre des paradoxes aujourd'hui, c'est que on entend les gérants effectivement parler des marchés, bien sûr, mais dire il y a telle échéance politique qui arrive, il y a les élections aux États-Unis, il y a un référendum en Italie. Il y a quelques années ensemble, on n'aurait pas abordé ces sujets politiques. Or là, ces sujets rythment un peu la vie des marchés aussi.
Oui, mais là encore, très important quand même de voir que chaque situation est quand même unique, chaque pays a ses propres raisons. En France, il est clair que le matraquage fiscal auquel quand même le gouvernement actuel s'est livré tout de suite en prenant le pouvoir il y a 5 ans, explique sans doute aussi une grande partie hein, de cet arrêt brutal de l'investissement. Et je pense qu'à contrario, un choc fiscal en sens inverse pourrait sans doute permettre d'accélérer cette reprise de l'investissement. Ce qui est vrai de la France ne l'est pas des autres pays. L'Italie est confrontée à d'autres problèmes auxquels essaie de se confronter Monsieur Renzi. Il y a ce référendum début décembre, il n'a plus lié son sort au résultat du référendum, et il a quand même engagé des réformes qui sont quand même des réformes d'envergure. On peut penser quand même là aussi, une fois que l'assainissement du secteur bancaire italien sera plus engagé qu'il ne l'est aujourd'hui, assister à une reprise de la croissance en Italie, qui est certainement la lanterne rouge aujourd'hui malheureusement en Europe.
Alors, on avait aussi au cours des dernières années beaucoup parlé des marchés émergents. Alors, en bien il y a quelques années, et puis ils ont été complètement délaissés par les investisseurs avant qu'ils y reviennent cette année. On voit les performances sur ces marchés-là. Est-ce que ça, on peut aller chercher justement sur ces marchés du rendement aussi?
Oui, sans doute, mais en étant peut-être plus sélectif qu'on ne l'a été dans le passé. Il est difficile aujourd'hui de raisonner tout pays d'émergents confondus. Autant essayer quand même de privilégier une approche par zone. L'Asie-Pacifique me semble quand même plus sûr que le continent sud-américain, même si il est sans doute temps de se réintéresser à des pays comme le Brésil, du fait des changements politiques intervenus sur la période récente. Donc, et les pays émergents, c'est encore aussi certains pays d'Europe de l'Est qui, vous le savez, ont connu une croissance beaucoup plus forte que les pays d'Europe occidentale depuis 5 à 10 ans. Donc, il faut être sélectif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a sans doute vécu le plus dur et qu'on peut raisonnablement espérer une bonne performance des pays émergents, en tout cas sur les marchés financiers, l'année prochaine.
Merci Philippe de Cholet.